Questions d'actu, le podcast des PUT de mesures physiques de l'IUT de Blois sur Radio Campus Tours.
Bonjour, vous écoutez le podcast des étudiants de deuxième année du BUT mesures physiques de l'IUT de Blois, des sujets d'actualité vus sous un autre angle. Nous sommes présents avec Quentin, Baptiste, Lucas et Edgar, ainsi que moi, Anatole. Épisode 5. La fusion nucléaire, rêve du scientifique.
Question d'actu.
Alors, la fusion nucléaire, est-ce que c'est un rêve de scientifique ? Premièrement, la fusion nucléaire, c'est un moyen de production énergétique qui va être basé sur la réaction physique qui va se produire dans les étoiles. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que la Terre est chauffée continuellement. Alors justement, où est-ce qu'on trouve toute cette énergie ? Elle va venir de l'hydrogène et de ses isotopes, qui vont être des petits atomes qui vont réagir entre eux et créer une grosse quantité énergétique et qu'on va pouvoir utiliser pour créer de l'électricité juste après. Cette méthode de production électrique, elle est en recherche depuis une quinzaine d'années, avec tous les ans des progrès qui sont faits, qui sont intéressants, mais elle reste cependant très longue en recherche, et on n'est toujours pas sûr d'avoir un résultat qui fonctionne certainement aussi longtemps que les centrales à fission nucléaire. Donc justement, on peut se demander, est-ce que c'est encore un rêve ou est-ce que ça peut devenir concret ?
Bonjour, alors pour commencer, les centrales à fusion nucléaire seront très dangereuses, notamment à cause du stockage de l'hydrogène qui est extrêmement inflammable, donc il y aura un très grand risque d'explosion ou tout simplement d'incendie.
Alors justement, le carburant qui va être utilisé pour produire l'électricité, c'est l'hydrogène et le tritium qui est un de ces isotopes. Le gros problème de la fusion nucléaire, c'est que c'est très instable. S'il y a une irrégularité dans la chambre de confinement où ça va se produire, la réaction va se stopper, il va y avoir des problèmes matériels mais sans plus. Et justement, c'est ça qui fait que c'est en recherche depuis si longtemps, parce que c'est pas excessivement stable et on a encore besoin de mettre au point. Donc le problème d'une explosion due au carburant, due à l'hydrogène, est très peu envisageable, et si elle est envisageable, les dégâts causés seraient seulement matériels, il n'y aurait rien d'inquiétant comme qu'on a pu avoir à Tchernobyl. Donc il n'y a pas de risque à s'inquiéter sur là-dessus.
D'accord, mais du coup, on investit aussi énormément d'argent dans la fusion nucléaire, alors que le changement climatique, c'est maintenant, la transition énergétique, c'est maintenant. On doit investir plutôt dans les énergies, des technologies que l'on a actuellement, telles que le solaire ou l'éolien. On ne doit pas investir du coup dans une technologie qui arrivera que dans 50 ans en fait.
Alors tout d'abord, bonjour. Malheureusement, tous les moyens pour produire l'énergie verte, donc l'énergie électrique verte, vont prendre du temps à être conçus et mis en marche. Par exemple, si on veut un monde entièrement en énergie verte, il faut produire assez de panneaux solaires, assez de batteries et d'éolien, sans compter la pollution que ça pourrait produire et les accidents que ça pourrait produire. Hein. On voit très bien aujourd'hui avec les batteries qui explosent, les batteries électriques. De plus, aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se plaindre de la présence de panneaux solaires ou d'éoliennes dans leur champ visuel. Par exemple, il y a des champs d'éoliennes, d'éoliennes qui dérangent visuellement les gens et qui trouvent que ça défigure le paysage français, et même dans le monde. Hein. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'une éolienne de 150 mètres de haut à 100 mètres de votre maison vous plairait finalement ?
Peut-être, mais ça, c'est un autre débat. On va plutôt se concentrer sur un autre aspect, le prix. Parce que le carburant utilisé dans les centrales, le tritium, est extrêmement cher à produire, donc l'énergie qu'on produira avec ces centrales sera aussi très chère, donc l'intérêt de ces centrales, il n'y en a pas en fait.
Alors justement, le tritium qui a été utilisé en carburant, aujourd'hui il est très rare, on peut pas le trouver, on le trouve en très faible quantité dans l'atmosphère, donc c'est pas envisageable de le prendre d'ici. La production industrielle, on va dire, va se faire grâce à l'eau, on va apporter de l'énergie à l'eau qui va produire de l'hydrogène et un petit peu d'oxygène à côté. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est énergétique, mais avec la fusion nucléaire qui va venir, qui va s'implanter, ça va créer une sorte d'inertie d'énergie, où on va avoir de la fusion qui va apporter de l'énergie. Cette énergie va permettre d'extraire le tritium pour l'utiliser pour créer de l'autre énergie. Du coup, au fur et à mesure, ça va augmenter, et le prix du tritium va réduire, le prix de production va réduire, ce qui va faire qu'au final, l'énergie produite avec la fusion nucléaire va décroître plutôt qu'augmenter.
Question d'actu, le podcast des BUT Mesures Physiques de l'IUT de Blois.
Alors bonjour, effectivement, cependant, le développement de la fusion nucléaire pourrait entraîner dans le futur des dérives géopolitiques, notamment avec un monopole des ressources clés par certains pays, notamment en raison de sa complexité technologique, de ses coûts extrêmement colossaux. Comme dit précédemment, ce sont des investissements qui pourraient coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars, et aussi en raison de la haute expertise technologique qu'elle requiert.
Alors, effectivement, ça coûte très cher à produire, les recherches coûtent très cher, mais si on va se baser justement sur la fission nucléaire, quand ça a été produit, ça a coûté entre 50 et 70 milliards de recherche et développement pour les États-Unis, entre 40 et 60 milliards de dollars actuels pour la France, et si on regarde au mondial, ça a été dans les 200 milliards de dollars. Alors certes, sur le moment, c'est excessivement coûteux, mais aujourd'hui, le nucléaire est quelque chose d'assez courant, très faiblement, on va dire, contesté, même s'il y a toujours des contestataires, mais on remet difficilement en question l'utilité de cet investissement au long terme. Et c'est justement tout le principe de la fusion nucléaire. Au long terme, ce sera quelque chose d'efficace et qui sera viable, si on arrive bien évidemment à faire fonctionner tout cela.
Effectivement. Cependant, le principal reproche à l'heure actuelle est que la fusion nucléaire n'est pour l'instant qu'une technologie expérimentale. Nous n'avons encore aujourd'hui aucune centrale de fusion qui produit de l'électricité pour le réseau. Des projets comme ITER, qui visent à démontrer la faisabilité scientifique de la fusion, et donc toujours au stade expérimental. Donc par conséquent, l'industrialisation reste encore incertaine pour le futur.
Alors, au niveau industrialisation, on est sûr que ça aura un coût à l'avenir qui va être gigantesque. Et c'est un argument qui s'entend, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Par exemple, le projet ITER est une collaboration de beaucoup de pays riches à travers le monde. Et du coup, les technologies produites par ITER sont tellement pointues en fait qu'elles ne vont pas être distribuées au monde pour pas que ces pays-là puissent produire leurs propres réacteurs. Et donc mon avis, c'est que ça va exacerber les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres qui ne peuvent pas produire de réacteurs à fusion nucléaire. Donc d'ici 2050, donc à peu près, quand la fusion nucléaire produira de l'énergie électrique, les ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz qui servent aujourd'hui à produire l'électricité, coûteront encore plus cher, voire seront quasiment pas accessibles. De plus, le prix de l'énergie dans ces pays pauvres augmentera, alors que dans les pays riches, elle diminuera. Et donc ça crée une inégalité extrêmement forte de développement, en sachant qu'elle existe déjà aujourd'hui. Donc selon moi, la manière de réduire de ces inégalités serait de partager ces technologies-là pour que justement ces pays pauvres ou en voie de développement puissent avoir une énergie propre, renouvelable et dense énergétiquement pour qu'ils puissent se développer économiquement et surtout diminuer la pollution mondiale qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Mais cette idée implique un changement de système dans la société des pays riches et pays occidentaux.
En résumé, ce débat sur la fusion nucléaire oppose deux logiques différentes. Les partisans y voient une solution miracle et inépuisable, capable de fournir une énergie décarbonée, stable et sûre pour l'avenir, sans les risques liés à la fission actuelle. Pour eux, c'est un investissement indispensable pour soutenir nos besoins croissants. A l'inverse, les opposants considèrent cette technologie comme une distraction qui prendra trop longtemps pour fonctionner et qui coûtera énormément, surtout face à l'urgence climatique. Ils soutiennent que les millions dépensés devraient financer la transition écologique et développer la sobriété énergétique, et jugent risqué de parier sur une solution incertaine qui ne sera pas prête avant au moins 50 ans. Cet épisode vous a été proposé par Quentin, Baptiste, Lucas, Edgar et Anatole, étudiants de deuxième année du BUT Mesures Physiques de l'UT de Blois dans le cadre du cours de Marie Dard. Il s'agissait du dernier épisode de ce podcast. Retrouvez tous nos autres podcasts sur le site de Radio Campus Tours et le site de l'UT.